chers auditeurs de Radio MDM, dans l'émission « Leur histoire est aussi notre histoire », je vous ai parlé précédemment des tout débuts de la ville de Mont-de-Marsan dans la seconde moitié du XIIe siècle. Après avoir parlé de la fondation de la ville, j'avais expliqué comment le Bourgneau s'était constitué, c'est-à-dire le Bourgneau, le quartier centré sur les actuelles rues Armand Dulamont et Victor Hugo. Je vais poursuivre cette promenade dans la ville du XIIe siècle en votre compagnie et évoquer les autres faubourgs de la ville. Je rappelle juste que toute ville nouvelle se forme à partir d'un noyau initial. Ici, ce noyau, c'est le Bourgvieux. Le Bourg-Biel, c'est-à-dire ce petit quartier situé entre le Midou, les deux rues du Lamont et Victor Hugo, et à l'est, la Cataille. Pendant que le Bourgneau se constituait peu à peu, d'autres faubourgs prenaient également naissance, soit entre Douze et Midou, soit sur la rive gauche du Midou. Alors, il faut bien quand même penser qu'il n'y a pas eu forcément d'ordre chronologique dans cette extension de la ville. Il n'y a pas un faubourg qui s'est constitué avant le premier, en tout cas, certainement pas. En général, dans toutes les villes, les faubourgs commencent à s'agglomérer autour des axes principaux de sortie des villes. Ici, les axes principaux de sortie du noyau initial de Mont-de-Marsan, eh bien, c'était vers le nord. Les rues Armand Dulamont et Victor Hugo d'aujourd'hui. À l'est, donc, en direction de Saint-Médard. À l'ouest, en direction de Saint-Jean-d'Août, et au sud, vers un faubourg qui s'est constitué à peu près en même temps que les autres, vers Saint-Sevé, vers la route de Saint-Sevé essentiellement. Cette agglomération certainement de maisons qui se sont édifiées en matériaux extrêmement sommaires, avec du torchis, du bois, des tuiles pour la toiture et encore, ou parfois de la paille tout simplement, ou du chaume, eh bien cette agglomération de maisons était certainement tout à fait hétéroclite, sans axe majeur, et tout cela a été organisé probablement ensuite par les vicomtes. Sur le plan géographique, si on regarde l'espace qui s'étend entre la Douze et le Midou, on se rend compte qu'il y a des contraintes, puisque nous avons ces deux rivières. Donc la ville n'a pu s'étendre depuis ce noyau initial du confluent que vers le nord et vers l'est, puisqu'au sud, eh bien, il faut franchir soit le Midou, soit éventuellement la Midouze. Alors, justement, comme nous avons parlé du Bourgneau, eh bien maintenant nous allons parler d'un petit quartier qui va se former, le quartier du Pujorin, surnommé aussi la Cataille. Il se trouve à l'est de l'église de la Madeleine et des bâtiments du prieuré médiéval. Ce secteur, c'est aujourd'hui le secteur de l'actuel musée d'Espiovléry, qui est installé dans deux maisons médiévales qu'on surnomme à tort le donjon. Alors à tort, car cela n'a jamais été un donjon, jamais. C'est à l'occasion des travaux de modernisation du musée dans les années 70 que l'ensemble de ces deux maisons a été baptisé de façon fantaisiste donjon. Peut-être tout simplement parce que cela pouvait attirer les touristes. C'est joli, certes, c'est évocateur, certes, mais jamais ces maisons n'ont constitué un donjon. C'est donc totalement faux sur le plan historique. Ce quartier est mentionné pour la première fois en 1450 sous le nom de la Catasie de Pujorin. On ignore ce que signifie la Catasie. Pujorin, Pojorin, selon les orthographes que l'on peut trouver, puisque l'orthographe évidemment est loin d'être fixée à cette époque, c'est un mot constitué de deux termes, Puy, la hauteur, et Oren, qui veut dire l'est. Cela fait référence à une hauteur vers l'est qui pourrait tout à fait correspondre à ce grand talus de l'âge du fer qui rejoignait Douze et Midou et qui a été vu lors des fouilles archéologiques autour du musée en 2006. Ce talus n'a été démoli que lors de l'édification du rempart de pierre qui a été édifié par les vicomtes soit à la fin du XIIe soit au début du XIIIe siècle, et il a certainement protégé le Bourgneau durant les premières décennies de sa constitution, c'est-à-dire pendant pratiquement 60 ans entre la fondation de la ville et puis le début du XIIIe siècle. Donc, à la fin du XIIe siècle, ce petit quartier du Pujorin était un espace compact qui s'étendait au-delà de la première enceinte englobant le prieuré et l'église, c'est-à-dire à peu près au niveau de l'actuel conseil départemental. Au sud, il était longé par le Midou. À l'est, probablement, était-il borné par ce grand talus dont j'ai parlé là il y a une petite minute. En fait, c'était une extension du Bourgneau qui, comme le Pujorin, ont été essentiellement peuplés ensuite par des notables jusqu'au XXe siècle. Alors pourquoi par des notables? Eh bien, d'abord parce que c'est le centre, c'est le noyau. Tout ça, c'est le noyau initial avec ses premiers faubourgs et que on est tout proche des trois centres de pouvoir, le château, la maison commune ou mairie établie en face du château et l'église prieuré. Ce quartier était également proche du plus ancien marché, le marché au grain, établi sur la place de l'église. Et d'ailleurs, ce marché au grain n'est pas très éloigné du secteur des moulins qui sont installés donc sur les rivières et notamment au confluent. Alors nous ne savons pas de quelle façon il s'est développé, ou en tout cas on n'en connaît pas les étapes, mais en revanche on le connaît au milieu du XVe siècle par un document de 1450 qui énumère toutes les redevances que chaque maison doit payer. En 1450, ce quartier comptait alors 22 emplacements. Tous ces emplacements n'étaient pas dotés de maisons. En effet, on y trouve notamment 4 greniers, 2 pressoirs, une étable, 3 jardins, 4 maisons, un four et des emplacements vides. Il n'était donc pas très peuplé et comme dans une grande partie de la ville, les maisons étaient entourées des bâtiments agricoles nécessaires à la subsistance, il est tout à fait logique que l'on trouve effectivement là des greniers, des étables, des fours, etc. Et le long du Midou s'élevait un ensemble de maisons de pierre formant l'enceinte dont demeurent les 2 maisons aristocratiques du musée d'Espiau-Véric. Ces maisons ont été construites entre la fin du XIIIe et le XIVe siècle et il ne reste de cet ensemble qui était jointif que ces 2 belles maisons, dont je reparlerai à une autre occasion. Pendant ce temps, sur la rive gauche du Midou se forme également un quartier dont la population est plus modeste. C'est un quartier qui est constitué d'artisans et de boutiquiers essentiellement. Il s'agit de ce que l'on a appelé le bourg de la Fonte Grande ou encore le bourg de la Grande Fontaine. Cette dernière grande fontaine existe toujours sur l'actuelle place Pascal Duprat et elle a constitué un véritable lieu de vie jusqu'au XXe siècle, que ce soit pour s'y abreuver, pour les activités économiques ou pour échanger des nouvelles. Cette fontaine au débit considérable a alimenté en eau potable la ville de Mont-de-Marsan jusqu'au début des années 2000, où il a fallu arrêter sa distribution car elle était trop polluée par les nitrates. Et elle a pourtant fait vivre des milliers de Montois pendant plus de 800 ans. Sa présence explique donc le développement du petit bourg, qui, sans doute jusqu'à la fin du XIIIe siècle, n'a pas dépassé un espace réduit qui allait jusqu'au carrefour des 4 cantons, c'est-à-dire le croisement des actuelles rue Gambetta et rue Frédéric Bastiat. C'était ça, les 4 cantons. Une enceinte a clôturé ce premier bourg, enceinte qui était très probablement une enceinte constituée d'un fossé avec une palissade dans un premier temps. Et donc dotée d'une porte, une première porte au carrefour des 4 cantons, la porte dite de Saint-Sevé, première porte de Saint-Sevé. Et d'ailleurs, lorsque le couvent des Cordeliers, c'est-à-dire des franciscains, va s'installer vers 1260, probablement appelé par le vicomte de Marsan Gaston VII, face à cette première porte, justement, c'est là qu'il s'installe. Il le fait donc en dehors des murs de la ville, comme c'était la tradition des ordres mendiants. Et l'entrée de son église est tournée vers le nord, donc face à la porte, alors qu'habituellement, l'entrée de l'église est située au Moyen-Âge, à l'ouest, puisque le chevet est orienté. Mais dans certains cas bien précis, on n'a pas tenu compte de l'orientation, et voici un cas bien caractéristique. Il fallait effectivement que la porte de ce nouveau couvent soit tournée vers la porte de Saint-Sevé, afin de pouvoir accueillir éventuellement ceux qui sortaient ou ceux qui rentraient d'ailleurs. Ensuite, l'extension de ce bourg de la Grande Fonte, qui va se faire sans doute pendant le XIIIe, XIVe, XVe, cette extension va englober le couvent dans une grande enceinte qui s'étendait jusqu'à l'avenue Sadi Carnot et cette enceinte a été dotée d'une seconde porte, la porte de Saint-Sevé, la seconde porte de Saint-Sevé. Au XIVe siècle, un nouveau bourg se développe. À l'est du bourg de la Font Grande, c'est celui de la Porte d'Air. C'est une petite extension qui englobait le secteur de l'actuelle avenue Aristide Briand, là où ont été édifiés la brasserie Le Donjon et l'immeuble qui lui fait face. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus tardif. Il faut aussi que je vous parle du petit faubourg de la Porte Campette qui s'est constitué probablement lorsque le faubourg du Bournao s'est développé suffisamment pour atteindre la Douze. Ce petit faubourg de la Porte Campette a dû être constitué très tôt d'artisans. On sait par exemple qu'il y avait là une tannerie qui a donné son nom à la place de la tannerie. il y avait certainement aussi des artisans qui étaient en relation avec une activité portuaire. Alors, activité modeste, bien entendu, mais il faut quand même le dire, une activité peut-être de batelier déjà à cette époque, puisque bon, la Douze était au moins flottable. Et puis, il devait y avoir toutes sortes d'autres artisans également, en relation avec peut-être la tonnellerie, etc. Donc, ce petit faubourg de la Porte Campée a constitué une petite avancée vers Saint-Jean-d'Oute, vers la paroisse de Saint-Jean-d'Oute. Reste un dernier faubourg, le faubourg du Port. Il s'est constitué tardivement car le port initial était d'abord centré sur le Midou, la Douze et le Confluent. Mais au fur et à mesure que les activités économiques ont pris de l'importance, notamment après la guerre de Cent Ans, qui a quand même un peu pénalisé les activités économiques partout, le port a glissé vers l'aval jusqu'à s'étendre au-delà de l'actuelle place Joseph Pancaut, là où se trouve le commissariat aujourd'hui. Une porte du port s'ouvrait d'ailleurs dans l'enceinte de pierre au débouché de la rue Frédéric Bastiat. Dans cette ville médiévale, 300 de pouvoirs proches les uns des autres. Le château, siège du pouvoir vicomtal, la mairie, siège du pouvoir municipal, l'église et son prieuré, siège d'un pouvoir religieux. On fait une petite pause. Je vous propose une chanson très gaie, une ballade, une ballade occitane à l'Entrada del Temps Clar qui est chantée par Bacas Monjoya et Ian Maria Carlotti. Une chanson du XIIe siècle.
All'entrata del desclar, ea, per gioiare e commensare, ea, e per gelo si ritar, ea, con la regina mostra che le sia amorosa. Alla via, gelosa e sassosa e sassosa, ballare entre noi, e la fai per tot mandar, ea. Calamar, ea, più se l'anni faccia l'ar, ea, che due non vengan danzare nella danza gioiosa. Alla via, cielo, sei satus, ballare entre noi. Par, ea, per la danza restorbar, ea, che delesse incrementar, ea, che con non li vuoi lembrar la regina savurosa. Alla via, gelosa, extra-flor, ballar entre noi, entre noi. Li vuole far, ea, la relazione di un vieillard, ea, mai di leugie bacelar, ea, che pensacce sulla sala, la regina savorosa. Alla via, gelosa, istanosa, istanosa, ballare entre nos, entre nos, che non la vega in danzar, ea. E son già in corde portar, ea, ben può gradir de verdad, ea, che gomro li gai sapar la regina abrirosa. Alla via, gelosa, eissa sos, ballar entre nos, alla via, gelosa, eissa sos, ballar entre nos.
Après cette pause musicale très gaie et très entraînante, je vous retrouve pour le second volet. Dans le premier, j'ai évoqué le développement des faubourgs de la ville de Mont-de-Marsan au cours de la seconde moitié du XIIe siècle. Alors parlons un petit peu de ses principales institutions. Il y en a plusieurs. Il y a le château, puisque c'est le vicomte qui a fondé la ville, le château, l'église, puisque cette fondation s'est effectuée en partenariat avec l'abbaye de Saint-Sever. Il y a la mairie, bien entendu, qui est l'organisme de gouvernement gouvernement municipal. Lorsque le vicomte Pierre de Marsan fonde la ville en 1141, il n'a pas créé d'institution communale dans les années qui suivent, et pourtant il a donné à la ville une charte de coutumes. Alors, nous allons en parler. Nous n'avons plus le texte de ces coutumes, malheureusement, c'est bien dommage, hein, mais on les connaît par une mention que sa descendante, la vicomtesse Constance, au XIIIe siècle, a laissée dans une nouvelle coutume qu'elle accorde aux Montois. Elle y précise que son ancêtre Pierre avait accordé des coutumes aux habitants de la ville nouvelle. Et c'est bien dommage que nous ne connaissions pas la teneur de cette coutume de Pierre, car elle règle, d'une façon générale, les rapports entre les habitants et leurs seigneurs, c'est-à-dire les droits et les devoirs respectifs, exactement comme aujourd'hui. Au Moyen-Âge, les rapports des deux parties que sont le seigneur et sa ville, tels qu'ils sont généralement exprimés dans une charte de coutume, ces rapports sont clairs. Le vicomte doit aux habitants sa protection et la ville doit l'hommage, l'aide et le service militaire. La charte de coutume règle également les dispositions qui régissent les rapports entre les habitants, c'est-à-dire les délits, les crimes, ce qu'ils ont le droit de faire ou de ne pas faire. Hors de ces dispositions initiales de la seconde moitié du XIIe siècle, nous ne savons rien. Alors, dans le texte de fondation, le vicomte s'était engagé à protéger les habitants qui viendraient peupler sa ville nouvelle, de même qu'il avait pris le même engagement vis-à-vis des biens que l'abbaye de Saint-Sevé y possédait. Par ailleurs, nous savons que Pierre de Marsan avait fait don aux habitants d'une partie des droits de péage afin qu'ils construisent et entretiennent les remparts de la ville. Cela signifie que les Montois pouvaient administrer une partie des affaires de la ville, mais on ne sait pas lesquelles. On peut imaginer qu'ils avaient forcément des représentants choisis parmi eux pour s'adresser au vicomte, notamment des représentants habilités à rencontrer le vicomte et à administrer un minimum d'affaires concernant leur vie et celle des habitants. Alors il faut attendre le milieu du XIIIe siècle, et le vicomte Gaston VII Moncade, qui est également vicomte de Béarn, car la première mention d'un maire et d'une assemblée communale remonte à 1259. Cette date ne signifie pas que c'est la date de la création de la mairie, ça signifie simplement qu'on en a la première mention. Gaston VII ayant épousé la vicomtesse de Marsan-Matte en 1240, c'est donc entre 1240 et 1259 que le vicomte a accordé à la ville une mairie, des jurats et un sceau par l'intermédiaire d'une nouvelle coutume. En gascon, mairie s'appelle Meiretat. Elle comprend alors un maire, dont on ne connaît pas le mode de nomination à cette époque, quand même 29 jurats. Alors nous ne savons pas non plus comment ils sont élus, mais pendant très longtemps, il est certain que l'âge des candidats, le nombre d'années de résidence dans la ville et leur niveau de revenu étaient sans doute les critères déterminants. Car ce sont des critères d'élection jusqu'à l'établissement de la République à la fin du XIXe siècle. À son avènement, le vicomte devait prêter serment de respecter ses coutumes, car elles accordaient des libertés importantes à l'administration municipale. Et dans un second temps seulement, il recevait les hommages de ses vassaux. Nous en avons un exemple, celui de l'hommage rendu en 1344 à Gaston Phébus, des vicomtes de Béarn et vicomtes de Marsan, et comte de Foix. À ce moment-là, en 1344, le jeune homme est mineur. Il est donc accompagné de sa mère et tutrice, Aliénor de Comminges. Ce n'est que l'année suivante qu'il sera majeur. Tous deux décident d'aller à la rencontre de leur sujet. Ils n'accomplissent pas moins de 279 hommages dans leurs états de Béarn, de Foix et de Marsan. C'est donc considérable et cela leur a pris une grande partie de l'année. La cérémonie a été renouvelée en 1346 entre le jeune vicomte qui est désormais majeur et notamment à Mont-de-Marsan l'assemblée communale. Cette cérémonie se déroulait selon un rituel intangible en un lieu symbolique. À Mont-de-Marsan, il s'agit du château vieux, symbole fondateur. Le jeune vicomte recevait les représentants de la commune. Il commençait par prêter serment de respecter les forts et coutumes de la ville et de se comporter en loyal seigneur. Ensuite, à leur tour, les représentants de la ville prêtaient serment de loyauté et d'obéissance. Alors, évidemment, si à cette époque, en 1344 et en 1346, tout va bien entre le vicomte et ses sujets montois, il n'en a pas toujours été de même. En effet, je pense que les édiles montois n'ont pas gardé un bon souvenir du vicomte car il ne transigeait pas avec ses exigences. Et notamment, en 1376, c'est-à-dire 30 ans plus tard, à la suite du refus par la ville de fournir des prestations en nature et de payer les impôts des années passées, tous les jurats ont été jetés en prison au château de Pau, jusqu'à ce que les habitants payent les arriérés et les amendes. Et ensuite, eh bien, le 12 septembre 1379, un règlement de police est établi sur ordre de Gaston Phébus. On sait que par exemple, en 1380, à la suite d'incidents graves qui sont peut-être liés justement à la promulgation d'un nouveau règlement de police que les jurats devaient faire respecter, eh bien, le vicomte fait remplacer le maire et les jurats, dont il modifie la nomination. Et désormais, le vicomte choisira 9 jurats qui désigneront et remplaceront les 21 autres selon leur volonté. Les privilèges de la ville vont être ensuite confirmés par Henri IV en 1592, puisqu'Henri IV était précédemment roi de Navarre, eh bien, devient roi de France. Et cela sera confirmé par les souverains suivants. Je rappelle que jusqu'au XVIIIe, c'est dans l'église paroissiale de Saint-Pierre-du-Mont que les maires successifs de Mont-de-Marsan viennent prêter serment de bien remplir leur mandat. Alors, où s'élevait cette maison commune? Eh bien, il est probable qu'elle s'élevait déjà à l'emplacement qu'elle va occuper à l'époque moderne, tout près des moulins et du confluent sur l'actuelle place de Gaulle. Cette localisation au cœur de la ville, face au château vieux, est assez logique. La seule représentation que nous en ayons, c'est celle d'un dessin de 1612 par Joachim Duvirt, qui nous a laissé un certain nombre de dessins de villes, notamment celle de Mont-de-Marsan, la ville de Roquefort, celle de Tartas, celle de Dax, et au-delà, bien entendu, Bayonne notamment et d'autres villes. Il montre en tout cas que la mairie était une maison d'un étage couverte d'un toit à deux pans. Le bâtiment a été quand même transformé en 1844. Des travaux vont le transformer en bâtiment à trois étages. Le projet de reconstruction à ce moment-là prévoyait de conserver la partie ancienne qui était située en retrait par rapport à la place et d'y accoler un bâtiment neuf qui donne sur la place Charles de Gaulle. C'est ce qui a été fait. Ce bâtiment a été ensuite transformé en bibliothèque municipale dans les années 50 lorsque la mairie a été transférée dans l'actuel immeuble de la place Pascal Duprat où elle se trouve toujours. La plus ancienne représentation du sceau de la ville, qui date de 1312, est conservée à la Bibliothèque nationale de France. Mais nous en avons un fac-similé qui est déposé aux archives départementales. C'est un sceau rond de 75 mm de diamètre quand même, et qui date de 1312. Nous n'avons pas plus ancien. Alors, je vais vous le décrire autant que possible. Donc, d'un côté, est représentée une clé antique avec la légende « Sigillum Co Montis Marcianis », c'est-à-dire « sceau de la commune de Mont-de-Marsan ». Et de l'autre côté, le sceau porte un écu martelé avec la légende « Ave Maria Gratia Plena Dominus Tecum », c'est-à-dire « Sainte Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi ». Alors, quelle peut être la signification symbolique de ce qui est représenté sur le sceau? La clé fait allusion à la ville de Mont-de-Marsan, c'est la clé de la ville. Il est donc logique que l'inscription qui accompagne cette clé soit celle de sceau de la ville de Mont-de-Marsan. Je dois préciser que plus tard, on a introduit une seconde clé, je ne sais pas à quel moment, mais aujourd'hui, l'écusson de la ville porte deux clés. L'une se réfère à la ville de Mont-de-Marsan, mais l'autre clé, eh bien, c'est probablement la clé de Saint-Pierre-du-Mont, d'où était issue la ville de Mont-de-Marsan, puisque c'est là que les jurats allaient prêter serment lors de leur investiture. Revenons à notre sceau. Il y a sur le revers une inscription qui fait allusion à la Vierge Marie. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, il ne faut pas oublier que nous sommes au Moyen-Âge, une époque très religieuse dans la société du Moyen-Âge. L'Église domine même la vie, elle domine la vie en tout cas, que ce soit la vie religieuse ou bien la vie civique même et morale de l'ensemble de la population. Alors, Sainte Marie, c'est probablement en référence au titre de l'Église, Sainte Marie-Madeleine. Cette inscription se réfère tout simplement à la prière « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous », qui est une prière extrêmement ancienne qui remonte au 5e siècle de notre ère. Puis ensuite, au 13e siècle, la prière a été légèrement modifiée et on va la trouver sous la forme exacte de l'inscription qui est reproduite sur le sceau. Donc il est tout à fait logique que le sceau datant de 1312, c'est-à-dire le début du 14e siècle, effectivement, nous ayons cette formule qui accompagne le sceau de la ville. Donc voilà pour ce sceau. Pour la pause musicale, je vous propose une très vieille chanson médiévale en occitan, Ai vist lolo, c'est-à-dire J'ai vu le loup, le renard et la belette, que vous connaissez parce qu'on en a fait effectivement une chanson pour enfants. Là, il s'agit d'une version donc en occitan.
Thank you. leme, hai visto l'op Rainar danzar. Hai visto l'op do Rainar leme, hai visto l'op Rainar danzar. Con dei tre passion l'ancor dell'ome, hai visto l'op do Rainar leme. Con dei tre passion l'ancor dell'ome, passion l'ancor da poaso poia. Dall'annata per se ganar qua Jesus, a chi trimanto dall'annata per se ganar qua Jesus. Renche din una mesata, hai visto l'op, l'orai la lep. No si potem tot per cuol, hai visto l'op, l'orai la lep. Hai visto l'op Rainar danzar, hai visto l'op Rainar leve, hai visto l'op Rainar danzar, potei te passion l'cor dell'ombre, hai visto l'op Rainar la leve, potei te passion l'cor dell'ombre, passion l'cor da poison poia.